citoyen au quotidien sur RCN
avec la CLCV de Malzéville-Saint-Max.
Sylvie Gruy, Christian Saquet.
Bonjour chers auditeurs, bonjour Christian.
Bonjour Sylvie.
Alors ça fait
bonjour aussi à Jean-Luc.
Ouais, bonjour aussi à Jean-Luc. Voilà, mais j'oublie souvent le technicien, quel qu'il soit. Ça n'a rien à voir avec le technicien qui est présent. Généralement, j'oublie. Voilà, donc ça fait plaisir de se retrouver avec un certain temps qu'on n'a pas fait de nouvelles émissions. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle saison. Et on va parler aujourd'hui de quoi, Christian ? Notre premier sujet.
Notre premier sujet, ça sera sur le tri des biodéchets.
Alors, ça démarre quand, ça ? Et pourquoi ? D'abord, pourquoi on va les trier, ces biodéchets ?
D'abord, ça sera obligatoire. Et c'est une première chose qui est importante. Ça sera obligatoire pour tous les ménages français, conformément à la loi anti-gaspillage de 2020. Et puis, ça s'aligne aussi sur le droit européen.
Ouais. C'est la fameuse loi AGEC. AGEC.
C'est ça, exactement.
Qui a été votée en 2020.
Oui. Cette nouvelle obligation concerne les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce, de gros, des cantines aussi, et puis des traiteurs ou des magasins de vente au détail. Ainsi que les déchets, comparables et compostables, provenant des usines de transformation de déchets, de denrées alimentaires.
Voilà, donc en fait c'est tout le monde, professionnels, individuels, etc. On est tous concernés. Alors c'est vrai que les habitants sont quelquefois un petit peu perdus, parce qu'on a vu quand même apparaître des poubelles où c'est marqué les déchets résiduels. Et déchets résiduels, ça ne veut pas dire grand-chose pour les habitants.
Oui, puis ils ne savent pas non plus pourquoi c'est faire.
Puis résiduels de quoi, enfin, donc là, moi j'avais trouvé aussi quelque chose, voilà, que la définition, alors il y a même un article du Code de l'environnement qui définit les biodéchets, et qui dit que c'est des déchets qui sont non dangereux, biodégradables, donc comme tu disais, des jardins, des parcs, des déchets alimentaires, donc c'est vraiment tout ce qui peut être qui est compostable, quoi. Par exemple, on n'ira pas mettre d'autres choses, d'autres déchets.
Ce qu'il faut savoir, c'est que ça représente quand même 30% des déchets ménagers en France. Hein.
Alors nous, on avait fait l'expérience d'avoir par exemple
un
lombricomposteur à la maison, et on arrivait quand même à mettre en biodéchets. Et en plus, dans un lombricomposteur, on ne met pas tout, c'est-à-dire que les plures d'orange, etc., on ne les met pas. Mais on mettait quand même, quand on était en étant trois personnes à la maison, on arrivait à mettre quelquefois jusqu'à 4 kilos de déchets alimentaires dans le lombricomposteur. Donc c'est énorme quand même, hein, pour trois personnes, 4 kilos par mois, ça fait environ 1,3 kg par individu. C'est quand même, ça représente une certaine masse de déchets qui ne finiraient pas, si on les trie bien, qui ne finiront pas donc dans l'usine d'incinération. Parce qu'il faut aussi savoir que les déchets alimentaires, c'est extrêmement humide quand même.
Ah, complètement, c'est par justement par l'humidité que ça fonctionne. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ça ne produit pas que du compost. Ça produit aussi du thé de compost.
Voilà.
Hein, on a un produit qui est de la matière qu'on va pouvoir mélanger avec de la terre. Et ça produit aussi un liquide, et un liquide qui est très important, puisque si on l'utilise pur, c'est un désherbant,
ouais,
efficace, monstrueux même.
À ne pas mettre tel que dans nos plantes vertes.
Alors, il y a aussi quelque chose quand même qu'il faut bien savoir, c'est pourquoi on veut faire ce tri des biodéchets. Il faut savoir que le but, c'est de réduire le bilan carbone du secteur des déchets, en réduisant le stockage et la combustion des déchets, quoi.
Voilà.
Puis de produire du biogaz.
Voilà, c'est parce qu'il y a les deux côtés. Il y a le côté, on peut produire du compost, etc. Et puis il y a le biogaz. D'ailleurs, même par exemple, à la sortie de la station d'épuration, de la métropole du Grand Nancy, il y a également du biogaz qui est produit.
Oui.
Donc
ils font une expérience de méthanisation.
Voilà. Donc il y a vraiment, c'est vraiment un avenir. Et c'est vrai que cette loi AGEC, donc c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, Donc cette loi, elle a été faite pour accélérer le changement de modèle de production et de consommation afin de limiter les déchets et de préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Donc c'est pas seulement pour le but du jeu, c'est pas seulement je vais trier mes déchets, etc. C'est vraiment d'aller vers quelque chose de plus vertueux. Hein, c'est bien ça.
C'est ça.
Alors, par rapport au tri des biodéchets, d'abord tout le monde mettre par exemple un lombricomposteur dans un appartement, il faut quand même avoir un peu de place dans sa cuisine, parce que ça prend quand même un petit peu de place quand même un lombricomposteur. Quand il y a vraiment des très petites cuisines, c'est pas possible. Et les personnes se demandent comment ça va se passer si c'est eux qui doivent faire les démarches ou quoi que ce soit. Donc il y avait un article dans le dernier Écho du tri.
Oui, alors à mon grand désespoir, je vois dans les poubelles l'Écho du tri, mais c'est monstrueux parce que c'est une quantité d'abord de papier qui est jeté et en plus de ça, les gens n'en prennent pas connaissance.
Il y a énormément d'infos dans cet Écho du tri. On le reçoit en version papier, mais on peut également le consulter en version numérique sur le site de la métropole. Moi, j'ai regardé hier, il y a quand même 10 ans d'Écho du tri. Donc, c'est à peu près minimum 4 numéros par an. Il y a 10 ans d'Écho du tri qui sont présents sur le site de la métropole. Donc, si on a raté un numéro sur les 10 dernières années, on peut aller le chercher et on peut le consulter sur le site directement. Voilà, donc il n'y a pas... Les personnes qui disent je sais pas, je suis pas informé.
Non, je connais pas, je sais pas.
C'est qu'ils le veulent bien.
C'est un manque de curiosité aussi.
Voilà. Donc dans le dernier numéro de l'Écho du tri, il y avait un article pas trop grand hein, sur le tri des biodéchets, qui disait le tri des biodéchets, on s'y met maintenant. Donc en fait, il réexpliquait hein, ce qu'elles étaient à partir de quelle date, donc du début de l'année 2024. Donc, il disait, chaque citoyen disposera d'une solution pour séparer les déchets de cuisine, donc épluchures, marre de café, coquilles d'œufs et j'en passe, des ordures ménagères résiduelles. C'est ce que je disais tout à l'heure, on ne sait pas toujours. Résiduel, c'est vraiment ce qu'on ne peut, à l'heure actuelle, plus trier, quoi, ce qui va directement à l'usine d'incinération. L'objectif, donc, c'est orienter ces biodéchets constitués à 80% d'eau. C'est pour ça aussi que ça. Le fait de mettre nos biodéchets dans les poubelles grises et de les envoyer à la station, à l'usine d'incinération, ça demande aussi beaucoup d'énergie pour les faire brûler, parce qu'il faut plus d'énergie pour faire brûler de l'eau, hein, des déchets humides, que des déchets qui sont secs, quoi. Et c'est afin de les valoriser et ainsi réduire notre production de gaz à effet de serre, parce que c'est ça aussi. Et quand on voit les problèmes qu'il peut y avoir avec les tempêtes, etc., il faut, à mon avis, qu'on y fasse quelque chose. Donc, ce que me disaient aussi l'autre jour les agents de la Maison de l'Habitat et du Développement Durable, qui est une extension, je dirais, de la métropole, hein, c'est vraiment l'endroit dédié pour que les personnes puissent avoir des renseignements concernant tout ce qui est déchets et compagnie. Ils ont beaucoup de questions de personnes qui disent est-ce que je dois acheter un composteur ? Moi, je suis en appartement, comment je vais devoir faire, etc. Donc, là, ce qui était dit dans l'article, c'est qu'il fallait pas, il faut pas paniquer. Hein. Il y a déjà de nombreuses solutions. Ce qu'on disait, hein, des bacs de compost pour les personnes qui ont des jardins, par exemple des jardins individuels. Il y a également aussi des composteurs collectifs. Et là, par contre, le problème, c'est que quand il y a un composteur collectif, il faut quand même qu'il y ait une personne qui soit un petit peu responsable.
Il faut qu'il y ait une personne responsable, parce que
référence,
sinon, aussi. Si on va se retrouver avec n'importe quoi dans le composteur, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment que ça fonctionne.
Voilà.
Et puis, il faut bien savoir que dans un composteur, il faut le remuer de temps en temps, il faut l'aérer. Et il faut qu'il y ait un responsable.
Voilà, et si on veut que ça vive, il faut qu'il y ait quelqu'un. Parce qu'on a vu une fois, enfin moi j'ai vu sur un site à Saint-Max, un ancien composteur, c'était complètement vide, parce qu'en fait, plus personne pour pouvoir dire de s'en occuper, et c'était la catastrophe, il n'y a plus personne qui y mettait quoi que ce soit. Et ce que nous disait donc la métropole dans cet article, c'est que dans le prochain numéro, donc le dernier numéro, c'était... septembre, octobre, novembre. Donc, il y en a un qui va sortir pour le mois de décembre. Et dans ce numéro du mois de décembre, il y aura d'autres informations concernant donc le tri des biodéchets. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si la métropole n'était pas en capacité de donner les moyens partout sur la métropole de trier les biodéchets, les habitants ne pourraient pas non plus être tenus pour responsables de ne pas faire le tri.
Oui, il faut pas louper la date là. Il faut que ça soit tout prêt, parce que s'il y a des manques, ça ne démarrera pas correctement.
Et ça fera que retarder. Par contre, il y a certaines communautés de communes autour de Nancy, par exemple sur Foix, où les habitants ont déjà reçu les petits seaux pour pouvoir dire de mettre les biodéchets chez eux et de pouvoir les emmener dans les composteurs en extérieur. Voilà. Alors, est-ce qu'on a encore quelque chose à dire par rapport à ça, ou est-ce qu'on a
non,
fait un petit peu
je crois
le tour
qu'on a
de la
fait
question
le tour, là. Il faut attendre la fin de l'année là pour voir et comment ça va s'organiser, quoi.
Voilà. Et comment ? Ce qu'on voulait faire aussi un tout petit point en plus par rapport à l'écho du tri. Tu le disais tout à l'heure, on le reçoit, tout le monde le reçoit dans nos boîtes aux lettres.
Y a absolument.
Pas, même si on a mis un stop pub, ce n'est pas de la publicité. L'éco-ductrice, c'est de l'information. Donc tout le monde le reçoit et tout le monde peut en prendre connaissance. Et il y a des sujets, je dirais, sur tout un tas de choses. Il y a vraiment des sujets, tout ce qui va concerner le tri. Par exemple, là, il y avait sur le numéro précédent, le numéro 63, il y avait un article concernant les boues au gaz vert. Qui concernait donc les boues qui sortent de la station d'épuration. Ils en ont parlé dans un numéro, donc il y a vraiment tout ce qui va concerner. Alors il y a des numéros en plus qui sont qui sont ciblés par rapport à la saison. C'est-à-dire que sur le numéro d'avant, qui était le numéro de printemps, il y avait justement, quand on fait le nettoyage de printemps, si on décide de faire du tri à la maison, voilà, ils donnaient des solutions. Généralement, ils donnent aussi des solutions, par exemple, pour Noël, pour faire des Noëls qui soient plus vertueux, plus verts que ce qu'on peut faire traditionnellement où on emballe nos paquets cadeaux avec du papier qui servira qu'une seule fois. Voilà.
Oui, donc, il y a plusieurs informations dans l'écho du tri, notamment dans le dernier, il avait été question du jardin de ville, jardin de vie, qui se passait à Jarville.
Voilà, qui se passe tous les ans à Jarville.
Vu le nombre de personnes qui sont venues à cette manifestation qui était sur 2 jours, je pense quand même qu'il y en a beaucoup qui en ont pris connaissance.
Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont sensibilisées. Nous, on l'a vu parce qu'on y était au jardin de vie, jardin de ville. Il y a beaucoup de personnes qui sont sensibilisées, mais il reste encore un travail à faire. Et il reste aussi un travail à faire auprès des personnes qui sont les plus démunies aussi. Parce que c'est vrai que quand on a du mal à trouver l'argent pour mettre à manger dans son assiette, on est peut-être moins aussi concerné par le tri, par l'environnement.
Il y avait aussi une information importante qui disait, qui donnait les lieux de distribution du compost d'automne, qui allait du 29 septembre au 18 novembre, et on est encore dans cette période.
Voilà, on est encore dans cette période. Je ne sais plus s'ils en font 2 dans l'année de distribution.
Je ne sais pas. Je ne peux pas te répondre.
Voilà, je n'ai plus l'info dans
mon cerveau. Ce que je sais, c'est que la dernière distribution, c'est le 18 novembre, et ce sera justement à Saint-Max.
Voilà, on est les derniers sur la route. Est-ce qu'on se fait une petite pause?
On va peut-être faire une pause musique.
Voilà, donc on est en automne, on a de la chance, il pleut. Donc, la première pause musicale, ce sera, j'ai oublié le nom de l'artiste, Petula Clark, et qui nous chante la Gadou. On y va.
Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la Gadou, la Gadou. Les gouttes d'eau me dégoulinent dans le dos. Nous pataugeons dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Ouh, la gadou, la gadou. Vivons un peu sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Mettons en marche les essuie-glaces. Ça nous changera pas d'ici. Nous garderons nos parapluies. Nous retrouverons la gadou, la gadou, la gadou, la gadou.
mais ça n'empêche pas la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ouh, la gadou, la gadou. Il fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons la gadou, la gadou, la gadou.
Citoyens au quotidien sur RCN
avec la CLCV de Malzéville-Saint-Max.
Bon, alors maintenant, on va s'attaquer au retour sur les litiges qu'on a en permanence.
Qu'on a dans nos permanences, oui.
On va parler des litiges concernant les charges locatives en copropriété parce que c'est un gros sujet. Voilà. Très, très gros sujet.
On a eu...
c'est pas d'aujourd'hui, c'est maintenant. On a eu il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Un litige de copropriété qui était sur Thionville. Je sais pas si tu te rappelles.
Ah oui, si. Mais là donc il y a notamment là dernièrement deux litiges, c'est deux il y en a un, c'est le propriétaire qui gère son appartement, donc le propriétaire directement, le copropriétaire, et puis un autre dossier, c'est une agence immobilière qui gère le bien d'un copropriétaire. Et on se retrouve à chaque fois avec des choses qui sont
C'est-à-dire que les propriétaires, les copropriétaires qui ont des locataires, la plupart du temps, reçoivent de leur syndic le relevé des charges.
Des charges de copropriété.
De copropriété. Et il y a deux charges différentes. Il y a celles qui sont à payer par le propriétaire et celles qui sont à payer par le locataire.
Voilà.
Et la plupart du temps, les copropriétaires, ils sont très très contents et très heureux de faire payer le maximum à leur locataire. Et ils ne s'occupent pas, ils ne font pas attention justement à la définition des charges qui doivent faire payer leur locataire.
Voilà. Donc les charges locatives, d'abord, il y a une vraie définition. Hein. Les charges locatives, il faut que ça corresponde à des, par exemple, à de l'entretien qui est au bénéfice du locataire. Ça va être dans les charges locatives, on va retrouver par exemple des impositions pour des services dont bénéficie directement le locataire. Donc là, un exemple, c'est par exemple la taxe d'ordures ménagères là, qui est payée par le propriétaire et là que le propriétaire fait payer directement par son locataire. Il y a aussi, par exemple, de l'entretien. Je pense notamment, quelquefois, voilà là, l'entretien au niveau de l'ascenseur. Mais il y a des choses qui ne doivent pas être payées par le locataire. Moi, je me souviens quelque chose de plus ancien. Dans un immeuble, le copropriétaire, enfin là c'était même carrément le propriétaire parce que tout lui appartenait, mais qui faisait payer à ses locataires la ligne téléphonique pour l'ascenseur.
Oui.
Alors que ça c'est vraiment typique, la ligne téléphonique qui est mise en place pour permettre aux personnes qui seraient coincées dans l'ascenseur d'appeler au secours, etc. Cet abonnement-là n'est pas récupérable sur le locataire. Donc il y a vraiment une définition. Il y a deux décrets en fait concernant les charges locatives. Il y en a un qui concerne les locataires en habitat social, et puis il y en a un qui concerne les locataires en habitat privé, donc dans une copropriété ou quoi que ce soit. Alors là, pour l'habitat privé, c'est de 1987. Alors là, j'ai pas renoté le nom exact de l'arrêté, mais voilà, il y a vraiment deux arrêtés qui sont les mêmes mais qui ont été pris à des périodes différentes. Hein. L'arrêté pour l'habitat social a été pris avant de celui des logements privés. Mais en fait, il y a le même contenu. Oui. C'est vraiment, mais il y a vraiment les mêmes choses. Et ce qui ne figure pas, alors c'est le décret, il liste. C'est un peu une liste à la Prévert, une liste de courses. Et il y a vraiment tout ce qui est récupérable. Ce qui n'est pas dans le décret, eh ben, ma foi, ça n'est pas récupérable. Donc, il y a ce qui est récupérable. Il y a aussi d'indiquer ce qui ne peut pas y être et ce qui doit rester à la charge du copropriétaire. Et le copropriétaire ou même propriétaire ne peut pas dire, moi, ça, voilà, il y a peut-être un arrêté, mais quelque part, je m'en fiche.
Oui, complètement.
Et on a quand même des choses.
Mais il y a un signe, il y a quelque chose auquel les locataires en copropriété doivent être vigilants. Je vais reprendre le cas très récent. On a une adhérente qui est venue nous voir. Elle paye en moyenne 800 à 850 euros de charges annuelles. Et là, tout à coup, elle s'est retrouvée avec 1 700 euros de charges.
Voilà.
Ben, quand on analyse effectivement ce que le copropriétaire veut lui faire payer, eh bien, c'est le répartiteur de chaleur.
Voilà, répartiteur de chaleur.
Alors, elle paye habituellement 850 euros, par exemple, de charges. Et là, tout à coup, elle se retrouve avec 1 700 euros. Ça a attiré son attention.
Voilà.
Eh bien, il faut que les locataires en copropriété soient vigilants, voilà, et qu'ils ne payent pas les yeux fermés.
Voilà. Et ce qu'il faut dire aussi aux auditeurs qui seraient dans ces situations-là, qui seraient locataires d'un copropriétaire, c'est que de toute manière, le propriétaire doit adresser tous les ans une régularisation de charges.
Complètement.
Alors,
et avec du détail.
Voilà. Donc, dans une copropriété, bien évidemment, la régularisation de charges ne peut pas être faite avant l'Assemblée Générale, puisque c'est l'Assemblée Générale de copropriété qui va valider les comptes. Donc si l'Assemblée Générale de copropriété se déroule au mois d'août, eh bien les charges, déjà de copropriété et après de les charges locatives, ne peuvent pas être établies avant. Donc ce qui décale un petit peu, mais ça n'empêche que le copropriétaire à son locataire doit faire un document qui va être détaillé. Parce que les charges donc doivent correspondre à des dépenses réelles, elles doivent figurer dans l'arrêté, le décret charge plutôt, et elles doivent être en plus elles doivent donc être détaillées d'ailleurs ce document, et elles doivent être justifiées. C'est-à-dire que des charges, le propriétaire doit être à même de fournir la facture.
Absolument. La facture qui sont facturées.
Qui correspond. Le locataire en copropriété ne peut pas s'adresser directement au syndic qui détient les factures, doit s'adresser au propriétaire qui, lui, les réclame, ces factures, au syndic.
Bien sûr. Et de façon surprenante, justement, la plupart du temps, les copropriétaires ne se cassent pas la tête. Ils font une photocopie de ce qu'ils ont reçu à payer au syndic. Et puis voilà. Mais non, c'est pas parole d'évangile.
C'est pas parole d'évangile. En plus, quand on dit un détail, dans le détail, il doit par exemple figurer qu'il y a un entretien d'espace vert. Il doit figurer qu'il y a de l'entretien aussi, pour ramasser les déchets, qu'il y a justement l'entretien de l'ascenseur, le nettoyage des paliers, l'électricité des communs.
L'électricité.
C'est vraiment tous ces postes-là. Là, on a quand même, sur les deux derniers dossiers qu'on a à traiter, on a quand même des choses qui sont hallucinantes. On a quand même, nous, des locataires à qui il est demandé des charges de syndic.
Oui.
Et c'est précisé, en plus, quand même, le propriétaire a quand même fait une chose remarquable, c'est qu'entre parenthèses, il a marqué « à la charge du locataire ». Mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui doivent être payées par le locataire, s'il y a les factures correspondantes, mais il demande quand même 700 euros par an. Enfin, c'est pas... Et comme il a fait ses régularisations pas de manière régulière, il les fait quand la personne sort du logement, ça veut dire que là, la personne se retrouve avec 4 années de charges, de régule de charges. Donc 4 x 7, 28.
Alors,
2 800 euros de charges de syndic, ça fait un peu quand même mal aux pieds quand même.
Oui,
hein,
bien sûr. Et ça permet aussi, quand nous avons des locataires qui ont des problèmes comme ça, de constater l'utilisation de baux qui sont obsolètes.
Voilà.
Des baux qui ne sont plus du tout conformes à la loi.
Voilà. En plus, sur un bail, il doit y avoir aussi, bon, hormis le fait qu'il ait indiqué ce qu'il y aura les provisions pour charges, mais c'est d'indiquer aussi, parce que c'est une vraie information pour la personne qui va louer un logement, c'est d'indiquer ce qu'il y a comme charge à payer. Parce que ça permet aussi à la personne de dire, bah, je vais prendre ce logement-là plutôt qu'un autre. Parce que quand on met une très petite provision pour charges, 80 euros, bon, bah, les personnes se disent, les charges sont modestes. Non, non, 80 euros, ce n'est pas les charges, c'est les provisions sur charges et qui sont régularisées en fin d'année ou deux ans après.
Oui, je voudrais insister aussi sur une chose. Quand les locataires viennent nous voir avec leur beau, souvent, il y a plein de d'écrits dessus. On marque n'importe quoi. Par pitié, si vous voulez faire ça, faites une photocopie de votre bail et puis vous pouvez écrire dessus. Mais gardez intact votre bail.
Ouais, il faut vraiment garder le bail. L'état des lieux d'entrée ne doivent pas être.
Il ne doit rien y avoir d'écrit.
Raturés, ils doivent pas être. Il ne doit pas y avoir de trucs dans la marge.
Là, le dernier bail que j'ai vu, là, c'est un chiffon. C'est catastrophique. On ne sait plus par quel bout le prendre.
Voilà. Et on ne sait plus du coup ce qui est. Ce qui est bon.
Ce qui indique, ça veut dire que le bail de notre locataire, là, ne doit plus correspondre au bail que le propriétaire il a.
Voilà. Une autre petite. Dans les charges qui peuvent être demandées aux locataires, on a aussi des trucs, enfin des définitions par les propriétaires qui sont quand même hallucinantes. Par exemple, on va avoir charge générale.
Ça veut rien dire.
Charge générale, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a des factures de charges générales ? Enfin, il n'y a pas une facture qui va me sortir des charges générales. On a aussi, sur la personne qu'on a reçue hier d'ailleurs, des charges bâtiment.
Bâtiment spécial.
Bâtiment spécial. répartiteur 2022. Sur des comptes de charges, c'est pareil. Quand il y a même un partage du chauffage, il doit être indiqué la façon dont c'est réparti.
Les index ?
Et s'il y a justement un compteur de calories, que ce soit un compteur de calories indépendant en extérieur du logement ou que ce soit des petits compteurs qui sont posés directement sur les radiateurs, on doit avoir les index de début, de fin, pour pouvoir savoir ce qui a été consommé. Et c'est pareil pour l'eau froide et l'eau chaude. Sur un propriétaire qui marque simplement le nombre de mètres cubes, c'est pas acceptable. Parce qu'en fait, il peut dire de facturer, bah, je dirais, je sais pas, moi, 50, 60, 80, 100 mètres cubes. Et puis, si la personne ne sait pas ce qui a été relevé sur son compteur, ce qu'elle paye, eh ben, voilà. Les locataires, et c'est aussi aux locataires à être vigilants. Et quand ils réclament quelque chose, à le réclamer par écrit. Je n'en peux plus de voir des personnes qui viennent nous voir en disant, mais j'ai téléphoné, on m'a promis
pas
ça.
Pas de téléphone. Des traces.
Alors, quand les relations sont bonnes, on passe un petit coup de fil, le propriétaire nous renvoie ce qu'on lui a demandé, bah c'est bien, on en reste là. Mais si le propriétaire ne l'a pas fait, eh ben, il faut faire un courrier. Et pareil, même si la personne écrit son courrier à la main, qu'elle en fasse une photocopie et qu'elle ne réécrive pas ce courrier. On le voit encore, des personnes qui font des courriers à la main envoient ce courrier-là et avant que de le renvoyer, de l'envoyer au destinataire, vont le recopier. Désolé, ce n'est pas une copie. Une copie, c'est une photocopie avec un photocopieur.
En deux mots, une recommandation qu'on peut faire à tous ces locataires en copropriété, si vous avez une interrogation sur les montants que vous avez à payer des charges, venez nous voir et on fera un contrôle de charges.
Voilà, déjà d'expliquer comment ça fonctionne et puis de faire un contrôle de charges. C'est un petit peu fastidieux de faire un contrôle de charges, mais c'est indispensable si on veut savoir si ce qui est demandé est juste. Voilà, c'était... je pense qu'on en, on a voilà, le point sur nos litiges justement liés aux charges locatives. Et puis, bah, voilà, faire savoir aussi aux locataires, qu'ils soient privés ou HLM, qu'ils peuvent contacter une association de locataires et la CLCV, c'est pas mal.
Et si on écoutait maintenant...
Tu veux une petite
pause
musique,
musicale.
Une petite pause musicale. Alors, c'est Alyosha Schneider, donc ça c'est un petit jeune du coup, par rapport à la musique de tout à l'heure, c'est 2023, et le titre c'est Sarah.
In a magic world, Sarah, been thinking about you. In the static world, Sarah, time is a ruin, and I love a world. With the heart of a boy still. All right. We'll be right back.
thought it was you. I'm in a magic world, Sarah, and you should come through when you're tired of the same folks, when you're tired of the same jokes.
Citoyens au quotidien sur RCN.
Sylvie Gruy, Christian Saquet.
Sylvie, je vais te faire un grand plaisir. Je vais te proposer de t'occuper, de développer le sujet suivant qui s'appelle le greenwashing.
Alors greenwashing, quand on prend le terme, c'est laver vert, laver pour comme faire sa lessive. Hein. En fait, il y a la semaine passée, quelque chose comme ça. Voilà, les associations de consommateurs, des associations, c'est pas toutes, hein, européennes, ont déposé une plainte administrative contre les principaux fabricants de bouteilles en plastique.
Bigre.
Alors, il y a une association, il y a le Bureau européen des unions de consommateurs, qu'on appelle le BUC. C'est pas beau comme nom, mais c'est comme ça qu'il s'appelle. Et ces organisations membres de 13 pays, dont la CLCV, ont signalé aux autorités européennes des allégations commerciales trompeuses sur la recyclabilité des bouteilles d'eau des grandes marques comme Coca-Cola, HBC, Danone et Nestlé Waters. Alors, des allégations, c'est des choses, des informations qu'on donne, mais qui peuvent aussi après, qui peuvent être là dans le cas-là trompeuses. Donc, selon les analyses qui ont été faites, de telles allégations ne sont pas conformes aux règles de l'Union européenne en matière de pratiques commerciales déloyales. Cette analyse a été réalisée en collaboration avec donc Client Earth et Ecos. Donc, le 15 novembre 2021, la CLCV avait déjà identifié l'allégation 100% recyclable sur des bouteilles de la marque Volvic. Et elle avait porté plainte pour pratique commerciale trompeuse devant le tribunal judiciaire de Paris. Donc ça fait quand même plusieurs années qu'on suit ça. Je vous donnerai après, pour les personnes qui parlent anglais, je vous donnerai le lien pour lire un rapport.
C'est pas moi.
Voilà, c'est pas moi non plus, parce que là, alors un rapport, c'est quand même un rapport qui fait un certain nombre de pages. Mon niveau d'anglais n'est pas suffisant pour que je comprenne grand-chose. Alors, les allégations problématiques identifiées sur de nombreuses bouteilles en Europe. Le consommateur européen boit en moyenne 118 litres d'eau en bouteille par an. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui en boivent beaucoup plus, et il y a des personnes qui en boivent beaucoup moins. 90% de cette eau est conditionnée dans des bouteilles en plastique. Parce qu'en fait, dans les supermarchés, on voit pas, il n'y a pas de bouteilles en verre, on va les retrouver les bouteilles en verre dans les restaurants. Qui sont donc l'une.
De temps en temps, il y a des bouteilles en verre aussi, quand même.
Voilà, mais la grande partie dans les supermarchés, c'est quand même des bouteilles en plastique. Ces bouteilles en plastique sont l'une des principales sources de pollution plastique des plages européennes. L'industrie donc des boissons a recours à des allégations de recyclabilité qui, selon nos recherches, sont trop vagues, inexactes et ou insuffisamment justifiées. Nous avons identifié trois principales allégations problématiques. La première, c'est 100% recyclable. Donc ce terme ambigu dépend de nombreux facteurs tels que les infrastructures de collecte, disponibles dans les pays, parce qu'en même temps, même tous les pays d'Europe ne sont pas équipés de la même façon. L'efficacité du processus de tri ou encore l'existence de processus de recyclage. Parce que c'est pas parce que on met nos bouteilles, qu'on les met à part, etc., les bouteilles en plastique, elles seront partout recyclées. Donc si c'est pour les mettre à part et après elles rejoignent, tout ce qui va être brûlé, etc., ça n'est pas très intéressant. Le taux de recyclage des bouteilles, sans le bouchon ni l'étiquette, est estimé à seulement 55% dans l'Union européenne. C'est quand même franchement pas grand-chose. Et le fait d'être, les chances qu'elles servent à fabriquer une nouvelle bouteille, alors là c'est encore pire, c'est 30%. Donc on est loin du 100% quand même. Là c'est 100% recyclable. Donc déjà là, nous on n'est pas d'accord avec ça. Ensuite, il y a sur des bouteilles maintenant, il y a aussi 100% recyclé. Alors cette affirmation, elle laisserait à penser que 100% de la bouteille, que la bouteille est fabriquée entièrement avec du plastique de bouteille recyclé. Or, par exemple, les bouchons ne peuvent pas être fabriqués à partir de matériaux recyclés d'après la législation européenne. Donc déjà, rien que le bouchon, il est déjà pas fait avec du plastique recyclé. Et le bouchon est quand même quelque chose de très lourd et de très dense, contrairement aux bouteilles qui sont moins lourdes maintenant. Donc déjà là, le bouchon, donc c'est déjà pas 100%, parce que c'est 100%, peut-être 100% s'il n'y a pas le bouchon.
D'autant plus que... le nombre de fois que le plastique peut être recyclé a une limite.
Voilà. Au bout d'un certain temps, le plastique ne peut plus être recyclé. Donc même si on était sur du 100% recyclé, eh ben, à un moment donné, le plastique sort de la filière du recyclage parce qu'il ne peut plus être recyclé. Après, c'est pareil. Une bouteille, donc, c'est le corps de la bouteille, c'est le bouchon, donc qui lui n'est pas en plastique recyclé. Et puis, il y a également aussi les étiquettes. Les étiquettes, on le voit, elles sont assez souvent donc en plastique et elles sont rarement fabriquées à partir de plastique recyclé. Donc là, c'est pareil, on sort du 100%. Et puis l'ajout, il faut savoir aussi que l'ajout de plastique vierge, donc du plastique non recyclé, qui vient de la matière première, pétrole, cet ajout au corps de la bouteille est également une pratique courante. Donc on n'est pas sur du 100% recyclé, mais on nous le vend quand même comme ça. Et puis, la troisième allégation, c'est quand même les visuels verts. Il y a quand même, on a cité tout à l'heure Volvic, et c'était aussi le cas de Volvic, où on nous montre, vous regarderez, hein, les consommateurs, vous prenez les bouteilles, et par exemple, Volvic, c'était on voyait l'image d'un sous-bois. Ou alors, on nous vend aussi, par exemple, Volvic, on nous montre aussi des volcans d'Auvergne. Donc, pleine nature, etc. Des logos verts ou des images de nature sont utilisés sur les emballages de nombreuses bouteilles d'eau à travers l'Europe. C'est pas qu'en France, hein, on n'est pas les seuls à faire ça. Donc en fait, qu'est-ce que ça fait ces visuels, ces images? Ça véhicule l'idée que il y a une neutralité environnementale donc de ces eaux en bouteille, de circularité, du sans fin du plastique, et ça peut même donner l'impression que les bouteilles auraient un impact positif sur l'environnement. Et là, c'est faux, quoi. Je veux dire,
complètement faux.
Le plastique, on en mourra. Donc, qu'est-ce qu'on fait le bug et certaines associations? Donc, elles ont déposé une plainte auprès de la Commission européenne et du réseau des autorités de protection des consommateurs, leur demandant d'ouvrir une enquête. Nous rappelons les autorités à veiller à ce que les professionnels cessent d'induire les consommateurs en erreur en utilisant de telles allégations. Donc moi, cette plainte, ça me fait aussi réagir à un article qui était passé dans l'Est républicain dernièrement, où des personnes disent « je ne bois pas d'eau du robinet parce qu'il y a des résidus de pesticides, des résidus de plastique, de médicaments, enfin, il y a des gens qui inventent un tas de choses. »
Dans l'eau du robinet, ça.
Dans l'eau du robinet, oui. mais ils sont prêts, dans le même moment, à consommer de l'eau en bouteille plastique. Et alors, du coup, ils entraînent le truc, et c'est eux qui polluent également avec leur consommation d'eau en bouteille.
Complètement.
Parce que qu'est-ce que fait un minéralier ? C'est qu'il fabrique surtout du plastique. Un minéralier ne fabrique pas l'eau, parce que l'eau, elle est à disposition, elle est dans les nappes phréatiques, tout ce qu'on veut. Mais le minéralier ne fabrique pas d'eau, le minéralier fabrique des bouteilles en plastique. Alors si on veut être un tout petit peu militant et protéger notre environnement, d'abord il faut protéger l'eau, arrêter de la polluer et arrêter de boire de l'eau en bouteille. C'est un acte militant que de boire de l'eau du robinet. Alors les membres du BAC qui participent à cette action, par exemple en France, il n'y a qu'une seule association de consommateurs, c'est la CLCV. Donc ça, il faut le dire, il y a quelquefois des associations de consommateurs qui communiquent beaucoup plus. Là, sur cette affaire-là, il n'y a que la CLCV qui est dans cette affaire sur les eaux en bouteille. Donc il faut arrêter de consommer de l'eau en bouteille, il faut aussi arrêter du même coup de consommer d'autres boissons en bouteille, parce que les sodas, c'est aussi des bouteilles plastiques, et en plus c'est bourré de sucre et de cochonnerie. Donc il faut boire de l'eau du robinet, on peut aussi faire ses propres boissons, on n'a pas forcément besoin d'engraisser les fabricants de bouteilles plastiques, de sodas et d'eau en bouteille.
Alors de mémoire, l'eau en bouteille, ça représente 10 kilos de plastique à l'année, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. C'est environ 10 kilos de plastique. Et ça, c'est pareil, c'est une moyenne. Donc, quand on met dedans, dans cette moyenne, dans ce calcul de cette moyenne, toutes les personnes qui ne boivent plus d'eau en bouteille, qui ne boivent que de l'eau.
10 kilos par personne ?
Ouais, c'est 10 kilos par personne. Et il y a beaucoup de personnes maintenant qui ne boivent que de l'eau du robinet. Donc, on imagine que les personnes qui consomment régulièrement de l'eau en bouteille, c'est beaucoup plus. Ils sont responsables individuellement de beaucoup plus que 10 kilos. Et je maintiens le terme de responsable, parce qu'on est responsable de la façon dont on consomme. Voilà, c'était notre petit article concernant le greenwashing. Donc voilà. Donc là, ça s'applique vraiment à greenwashing, parce que c'est vraiment les minéraliers qui donnent l'impression qu'ils sont, très, très verts, très respectueux de l'environnement, mais ce n'est qu'une façade. Est-ce que tu veux une petite musique ou quoi ou qu'est-ce avant qu'on fasse l'agenda ? Où est-ce qu'on fait l'agenda ?
Une toute petite musique, là.
Alors, une toute petite musique ? Il y a Ibrahim Maalouf, mais elle fait comme 3 minutes. Passé. On peut mettre Ibrahim Maalouf, Bambino. Allez, on y va.
Les yeux battus, la mine triste et les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratte, gratte sur ta mandoline, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blonds, tu as l'air d'un chérubin. Va plutôt jouer au ballon, comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes, te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille ta casquette. Ce n'est pas ça qui dans son cœur te vieillira.
L'amour et la jalousie ne sont pas des jeux d'enfant. Et tu as toute la vie pour souffrir comme les grands. Et gratte, gratte sur ta mandoline, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, ne les garde pas pour toi. Va le dire à ta maman, elle est maman, c'est fait pour ça. Et la blottie dans l'ombre douce de ses bras pleure un bon coup et ton chagrin s'envolera.
Citoyen au quotidien sur RCN.
Et bien maintenant, Sylvie, tu vas peut-être nous parler de l'agenda de la CLCV.
Voilà, donc on arrive sur la fin de l'émission, donc comme à chaque fois, on va présenter l'agenda. Donc la première chose, c'est le... Alors j'arrive même plus à me relire parce que j'ai fait une photocopie, c'est le 18 novembre à 18h, la CLCV. Alors c'est pas la CLCV Malzéville-Saint-Max, c'est la CLCV nationale qui propose un webinaire gratuit dont le thème est « Comment sécuriser ma vie privée sur le net ?» Donc c'est quand même vraiment d'actualité parce que quand on voit toutes les fraudes, tous les hameçonnages, etc., les personnes qui se font dérober de l'argent. Donc ce webinaire est animé par Olivier Guéraud qui est un juriste conso à la CLCV nationale et par Laurent Verdier qui est le directeur formation, pédagogie et sensibilisation à cybermalveillance.fr.
Et pour participer alors, comment on fait ?
Donc du coup c'est quelque chose donc qui est gratuit, je le disais. Et pour participer, il suffit d'aller sur le site de la CLCV, le site national, donc qui est www.clcv.org. Et on arrive, on trouve donc l'article concernant ce webinaire gratuit et il suffit de cliquer sur un lien.
Il faut s'inscrire alors ?
Non, il ne faut pas s'inscrire.
Il faut pas s'inscrire.
Non, il y a vraiment le lien pour le jour pouvoir participer. Donc ça ne sera pas un lien où les participants pourront poser en direct des questions. Donc c'est ouvert à tous et on a la possibilité donc, de le suivre gratuitement. On trouve également, pour pouvoir dire de participer, on l'a mis aussi sur la page Facebook de la CLCV.
Donc, je crois que je l'ai mis sur ma page aussi.
Voilà, donc tu donneras tout à l'heure les coordonnées, le nom de la page. Donc ça, c'est la première chose. Donc voilà, c'est tout le monde peut participer. Franchement, à mon avis, c'est important parce qu'il y a plein de litiges par rapport à ça. Et puis le deuxième événement qui va venir, c'est la participation de la CLCV Malzéville-Saint-Max à un événement qui est le Mois sans tabac, donc qui est organisé par la mairie de Nancy. Ça se passera donc le 22 novembre 2023 de 10h à 17h avec une coupure je pense à midi. Ça sera salle et bar chez fer à l'hôtel de ville de Nancy. Et la CLCV, nous allons y faire notre traditionnel donc bar à eau, puisque en même temps c'est vrai que quand on parle bar à eau, on parle plastique, on parle aussi pollution, etc. Et que aussi en plus une des pollutions du tabac, c'est comme aussi les mégots.
Donc, et c'est ouvert à tout le monde ?
Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Le programme est donc plus complet est à venir. On ne l'a pas encore. Donc on le mettra pareil sur notre page Facebook, puisqu'on partage aussi bien on fait des retours sur notre page Facebook des événements auxquels on a participé, autant on met également les programmes. Donc moi je vais te passer la parole avant qu'on rende l'antenne pour que tu te redonnes les coordonnées de la CLCV, les permanences, etc. pour que les gens puissent venir facilement.
Alors je rappellerai que CLCV veut dire consommation, logement et cadre de vie.
Ouais.
Notre association, c'est l'association de Malzéville-Saint-Max. Nous sommes au 60 rue du Colonel Drian dans le bâtiment Franklin, 54 220 à Malzéville. Pour venir nous voir, il faut utiliser la ligne Stan numéro 13 et on descend à Alexandre 1er. Pour nous contacter, vous avez le téléphone à votre disposition, le 03 83 29 10 96, ou vous pouvez nous contacter par notre adresse mail, c'est malzéville, j'ai bien dit.
Voilà, mais sans l'accent.
@clcv.org. Et puis pour en savoir plus sur la CLCV, vous pouvez aussi aller sur www.clcv.org. Concernant nos permanences, elles ont lieu le mardi de 9h30 à midi et de 14h30 à 17h, le mercredi de 14h30 à 17h et le jeudi de 9h30 à midi et de 14h30 à 17h.
Alors tout à l'heure tu disais qu'on pouvait venir par le bus, les personnes qui viennent en voiture sont assurées d'avoir une place sur le parking puisqu'il y a le parking des résidences, des immeubles qui en journée il y a largement de la place pour pouvoir se garer.
Donc il est recommandé, si vous voulez venir nous voir, si vous avez besoin de nos services, de téléphoner ou de procéder par mail parce voilà. que nous ne prenons que ce rendez-vous.
Voilà, alors il faut expliquer la différence entre les permanences. C'est vrai que les permanences, c'est un accueil libre, les personnes qui viennent nous voir lors de ces permanences. Par contre, c'est vrai qu'après, même quand on traite les dossiers, quand on reçoit les personnes, là, on les reçoit sur rendez-vous pour n'avoir qu'une seule personne et ne pas avoir le risque qu'on soit avec quelqu'un en train de traiter un dossier et qu'on ait quelqu'un d'autre qui sonne à la porte, qui vienne nous voir dans le cadre de la permanence. La permanence, c'est vraiment un accueil ouvert à tous. Et quand on veut vraiment traiter un dossier, eh bien, il vaut mieux prendre rendez-vous pour être sûr qu'il y ait un bénévole qui soit dédié à la personne qui vient. Est-ce que...
Je pense qu'il faut aussi insister sur le fait qu'il faut préparer tous vos papiers, ouais. tous les documents qui ont trait au dossier. C'est extrêmement important parce que quand quelqu'un vient nous voir et puis qu'il manque un dossier, qu'il manque un papier dans le dossier, eh ben ça retarde.
Voilà. Et puis aussi, quelquefois, si les personnes peuvent faire un historique un petit peu de leur litige, en l'écrivant, hein, ça permet aussi de faire un peu une synthèse du problème, plutôt que d'avoir des allers-retours et de se dire, ben, la personne nous dit, ah oui, mais il y a aussi ça qui s'est passé, etc. S'ils peuvent faire un historique de leur dossier, c'est.
Je pense que c'est une nécessité, d'abord parce que ça permet au consommateur ou au locataire qui vient nous voir de se remémorer voilà, effectivement toute son affaire, comment ça s'est passé chronologiquement.
Mmh. Il y a une information que tu n'as pas donnée, c'est la page Facebook.
Eh bien, je vais te laisser le faire.
Tu m'as laissé le faire. Donc, notre page Facebook, c'est tout simplement CLCV Malzéville Saint-Max. Donc, on mettra aussi de l'information. Quand on fait, par exemple, ce genre d'émission, on remet après aussi de l'information concernant les sujets qui ont été traités. Donc, on le fera de la même manière qu'on le faisait auparavant.
Alors, pour rappel, écoutez notre émission Citoyens au quotidien tous les lundis. De 10h à 11h.
Voilà, c'est ça. Et puis on peut écouter les podcasts sur le site de la radio que tu
Alors,
as rappelé parce que je ne le
radio,
sais jamais par cœur.
Alors le site de la radio, c'est www.rcn-radio.org.
Voilà. On a fini. On dit au revoir.
Au revoir et à bientôt.
Au revoir tout le monde. À bientôt.